Écoutez, Monsieur Mariotti, je suis très heureux en tant que voisin de venir à l'ADESM une fois de plus, mais ça fait longtemps que je n'étais pas venu. J'avais peur que l'ADESM aille mal, mais j'apprends que vous allez bien. Oui, qu'il n'y a pas de conflit, que tout va bien. Voilà. Non, je suis très heureux d'être ici, je suis très honoré. Donc, territoire, c'était votre sujet, mobilité, se mettre en mouvement. Alors, le mot se mettre en mouvement ce matin, ça veut dire bouger, aller vers les gens qui souffrent. Donc, si mobile, on a un petit peu essayé de faire ça. Je ne sais pas si j'ai le pointeur ou le... Vous passez la suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un petit service inscrit dans le pôle ouest du centre hospitalier Vignatier avec trois missions et trois structures. Une équipe mobile de psychiatrie qui date du 2 avril 2012, donc c'est presque un poussin du jour. Un centre de prévention du suicide de mai 2012. Je ne vais pas détailler, sauf s'il y avait des questions, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Et puis une équipe de recherche avec le professeur Yves Matillon, centrée sur la décision santé et notamment la qualité de la décision. La suivante. Alors je recule, j'avance. Donc pourquoi PsyMobile ? Parce que les ruptures thérapeutiques sont la première cause de rechute et de réhospitalisation. Donc c'est tout à fait valorisable. On peut faire des évaluations médico-économiques de ces ruptures thérapeutiques. Parce que beaucoup de patients qui rechutent redoutent à nouveau d'être hospitalisés, notamment parce qu'ils ne sont pas rentrés par la voie royale des soins, mais par les menottes, la contention physique, la chambre d'isolement, et que, à nouveau, si les symptômes arrivent, ils ont vraiment très très peur. Comment rentrer dans le système de soins? Est-ce qu'il y aurait d'autres portes d'accès? Et puis, beaucoup de familles peuvent hésiter à recourir aux grands moyens. Il y a des phénomènes de compensation, de tolérance, mais la grande décision du SPDT, du SPDRE, c'est vraiment un dilemme très profond pour les familles. Ah, il faut que je pointe ici. Voilà. Donc en général, dans ces situations de décompensation un peu chronique, un peu stabilisée, où il y a des phénomènes d'équilibre, il est très difficile de prendre des décisions. Souvent, on va différer, on évoque un cas, beaucoup de CMP évoquent des cas, puis ensuite on dit, bon, ben, écoutez, on va voir, mais on ne voudrait pas déclencher les affaires, attendons un petit peu, ça va peut-être se résoudre. Voilà. Donc, il y a aussi un phénomène d'ambivalence fondé sur des échecs. Les familles peuvent dire, oui, d'accord, vous intervenez, mais alors, trois fois, ça n'a pas marché. Donc, comment vraiment... intervenir à bon escient. Et puis, il y a quelquefois l'idée, et ça peut être une réalité, que l'intervention pourrait aggraver les choses. Il nous en veut beaucoup. Si vous intervenez, vous allez nous tuer. Donc, avec les PsyMobile, on a quelques principes. Aller vers le patient. Donc, on est en dehors des cadres comme ça, mais c'est aller vers le patient. Lui proposer, dans 100% des cas, une consultation dans un lieu négocié psychiatre et infirmier, c'est totalement, on ne déroge pas, c'est 100% des cas. Je vais voir les objectifs plus précisément de PsyMobile, ensuite les principes d'action, les ressources en termes humains essentiellement, les étapes du processus d'analyse de la demande jusqu'à la réponse, et enfin les quelques résultats que nous avons. Il faut dire que cette action a été soutenue fortement par la direction de l'hôpital du Vignatier et par l'ARS, Madame Lecomte doit être pas loin, sur le plan expérimental, parce que c'était nouveau. Donc on va bientôt passer d'expérimental, on est passé d'expérimental à pérenne, avec le risque bien sûr de s'endormir. Alors. Donc améliorer l'accès aux soins pour des personnes qui ont des besoins de santé mentale, mais pas ou trop peu de demandes. Les personnes n'ont pas il n'y a pas de demande nulle, il y a des souffrances, il y a une demande, il y a un besoin perçu. Mais il n'est pas forcément exprimé vers les portes classiques de la psychiatrie. On essaye de les remettre dans un parcours thérapeutique, donc nous intervenons ponctuellement. Mais on verra que ce ponctuel peut durer quelquefois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre la demande et la réponse adaptée. et on veut prévenir les décompensations aiguës, les passages à l'acte, les homicides. Et on a eu déjà intervenu pour un monsieur qui avait programmé de tuer ses enfants puis de se tuer. Donc l'hospitalisation a été, semble-t-il, salutaire, puisque rien n'est arrivé, alors que tout était programmé, les lettres étaient rédigées. Et surtout, éviter les SPDT et les SPDRE. Ça veut dire que le résultat de l'équipe peut être valorisé en nombre de journées d'hospitalisation évitées. Aller au-devant, hors situation d'urgence, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des équipages pour aller chercher les personnes qui sont dans le cadre du SPDT, des SPRE ou en programme de soins. Donc on se met hors de ce champ-là, qui est le champ vraiment des équipes de psychiatrie de secteur. On essaye de donner au maximum le goût de se soigner aux patients, c'est-à-dire d'avoir une psychiatrie qui est plutôt douce, respectueuse, mais efficace, et d'aller à l'essentiel. Et puis de travailler, et ça c'est un point important, dans le milieu naturel, c'est-à-dire avec le contexte, et j'estime que notre intervention est plutôt d'ordre interministériel. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, ça peut être le logement, le travail, l'intérieur, et on essaye de travailler avec des acteurs. Donc les problèmes sont éventuellement interministériels, mais les solutions sont interministérielles, au niveau d'un pas de porte. Et on se simplifie beaucoup les choses en ayant les acteurs, comme les bailleurs sociaux, comme des travailleurs sociaux, comme des travailleurs sociaux des commissariats de police, comme étant avec les pompiers, comme étant avec beaucoup de partenaires. Il y a un concept qui est en train d'émerger, je ne sais pas si vous le connaissez, en Angleterre, c'est la nidologie. La nidothérapie, c'est-à-dire de travailler au plus près du patient et de faire des petites variations qui pourraient changer l'issue des choses. Bon, nidothérapie, ce n'est pas très joli, on pourrait presque s'en moquer. Mais regardons d'abord bien ce que c'est. Périmètre d'intervention, 18-65 ans, sauf si la gérontopsychiatrie nous dit « nous n'y allons pas, nous ne pouvons pas y aller, c'est trop difficile, c'est trop dangereux, on vous laisse y aller ». On leur dit merci. L'aire populationnelle des services, c'est le centre hospitalier de Vinatier, je dirais environ 700 000 habitants, mais comme nous avons, je crois, le seul département, peut-être de province, à avoir trois hôpitaux psychiatriques, on va aussi sur les aires de Saint-Jean-de-Dieu, avec une très bonne entente, et Saint-Cyr au Mont-d'Or, excepté la partie nord du département, qui a déjà une équipe mobile. Donc ça fait, je ne sais pas, 1,2 million d'habitants environ. Une équipe qui est un peu importante, alors c'est beaucoup des mi-temps, enfin, mi-temps pour les médecins, mais nous avons été beaucoup aidés, il faut le dire. Donc, regardez pas trop, vous faites pas du mal en regardant cette diapositive. Donc, je suis à mi-temps, Michel Pacotroncin est à mi-temps, Nicolas Choliac, un psychiatre un peu atypique. Je viens à le dire parce qu'il est un peu atypique, c'est une deuxième vie. Avant, il a fait X et Supélec. Donc, il nous aide pas mal pour beaucoup de domaines. On a un chef de clinique, Anne Dumont, interne, un psychologue qui est très, très précieux pour recevoir les familles, pour évaluer avant l'intervention. Et puis, une équipe infirmière, temps plein, vraiment des perles. J'ai une équipe en or, j'ai les plus belles années de ma vie professionnelle, je tiens à vous le dire. Comment on fait ? On est très minutieux, on a beaucoup travaillé sur les procédures. Et le point commun de l'équipe, c'est le respect de la procédure. C'est-à-dire d'abord enregistrement de la demande avec l'équipe infirmière qui détaille, qui va chercher l'information, qui téléphone, qui brise les cloisons, qui récupère les dossiers. Voilà, c'est vraiment un travail. Et quelquefois, en quelques heures après la demande, on en sait énormément. Quelquefois plus que dans un dossier qui était construit depuis 1 ou 2 ans. Parce que nous avons brisé des cloisons. Ensuite, on analyse en équipe, on voit ce qui étaient les données qui nous manquent, on fait des recueils d'informations complémentaires qu'il faut voir, qu'il faut rencontrer. On rencontre beaucoup les familles, beaucoup les aidants naturels, beaucoup les travailleurs sociaux, beaucoup les porteurs de la demande. Ensuite, on analyse, faut-il intervenir ou pas intervenir? C'est risque-bénéfice d'intervenir versus ne pas intervenir. Et comment intervenir? Quel jour? Quelle heure? Comment procéder? On prépare l'intervention, on essaye de préparer aussi l'aval. Donc on a un amont qui est un peu déconstruit, il n'y en a pas, il y a une rupture thérapeutique. On va préparer le terrain. On, on est un peu une agence d'avenir avec plusieurs pistes. S'il fallait hospitaliser, nous retenons un lit. La plupart du temps, on annule le lit parce qu'il n'y a pas besoin. Mais par exemple, on va déclencher l'urgence le jour où on a un lit disponible dans le secteur de référence. Alors, on va essayer de programmer l'urgence en quelque sorte. Ensuite, une fois qu'on est intervenu, retour d'expérience, analyse avec les partenaires, le demandeur. On a une exigence très très forte sur la qualité des données qu'on recueille. On refuse la psychiatrie, je pense que, je sens pas, je le sens. Non, il faut des faits vraiment concrets dans nos dossiers. Deuxièmement, on veut connaître le patient avant de savoir ce qu'il a, qui il est. C'est-à-dire son métier, ses points forts, ses points faibles, mais qu'on ait, dès qu'on entre en conversation derrière une porte, qui nous ouvre, qui ne nous ouvre pas, qu'on ait des sujets de conversation. S'il était sportif de haut niveau, on a un sujet de conversation. Si on n'a pas cette information-là, on n'entrera pas forcément en contact. La sécurité est une obsession. L'autre jour, j'étais avec un médecin de Padoue. À Padoue, il y a un psychiatre par jour qui fait psy mobile. Je leur demande, vous avez eu un problème déjà ? Non, non, non. Vous n'avez jamais eu de problème ? Ah si, un psychiatre a reçu 8 balles dans les jambes. Je ne veux pas que ça arrive. Donc c'est sécurité du patient, sécurité de la famille. On ne veut pas que les gens sautent par les fenêtres. On ne veut pas que quelqu'un soit tué parce que nous sommes intervenus. Du demandeur, de l'équipe elle-même. Donc on essaye d'anticiper vraiment les risques courus. Qu'il soit blessé, qu'il soit humilié, qu'il soit traqué un petit peu. Même quand on met un petit mot, on ne va pas le mettre sous la porte, on le mettra dans la boîte aux lettres pour qu'il puisse nous le déchirer, mais on ne va pas rentrer dans son espace vital. Un besoin, c'est la formation à la négociation. Moi, je n'ai pas reçu de formation à la négociation et nous passons notre temps à négocier. Donc, on va demander à des personnes qui ont l'habitude de négocier de nous former. Ça sera en décembre. Ils vont venir 2 jours nous aider. Ce sont les négociateurs du GIGN. Hein, pour... faire simple. Ça peut être le même patient qu'ils ont en charge et que nous avons eu quelques jours avant. Ce sont les mêmes. Ça peut être les mêmes. L'activité, donc c'est un résultat, et bien une espèce d'harmonie. Bien que le bassin de population soit très conséquent, il y a une assez bonne adéquation entre l'offre qu'on pouvait d'intervention et l'arrivée. Mais la montée, vraiment en charge, est très, très progressive. Là, sur presque 1 an et demi, c'est un flux tout à fait raisonnable. Il faut savoir que les personnes, avant de recourir à PsyMobile, réfléchissent énormément. C'est impliquant, puisque nous intervenons avec le demandeur. Et ce n'est pas tous les demandeurs qui vont intervenir. Par exemple, les généralistes, nous avons un total échec. Pas de généralistes. Les généralistes n'ont pas la possibilité de venir au domicile. Ils vont activer la famille pour dire « allez-y ». Mais nous avons un fort échec, les généralistes, bien que j'ai des contacts très très bons avec de très grands, beaucoup de généralistes. Pourquoi on nous demande ? Peut-être commencer par ce côté-là. Risque suicidaire, urgence suicidaire, les propos de passer par la fenêtre sont évoqués. Entassement et incurie, je ne peux pas vous faire le spectacle parce que ça ne serait pas utile, mais on voit des choses incroyables. Incroyables. Des entassements de incroyables. Des endroits où on ne peut pas s'asseoir, où il y a 30-40 000 mégots par terre, où les gens ne sont pas sortis depuis 6 ans, alors qu'ils ont 26 ans. On découvre des choses et c'est des patients qui ne ressemblent pas aux patients que l'on a en CMP, que l'on a à l'hôpital. Ils ont un petit truc en plus, un talent, qui font qu'ils restent en équilibre alors qu'ils sont profondément déséquilibrés. Une intelligence, une façon d'éviter les soins, de se dérober, de ne pas cesser prendre. Il y avait un congrès de santé mentale et communauté il y a quelques années, le soin entre rupture et capture. Ils ne se laissent pas capturer facilement. Et notre art, c'est plutôt de la pêche à la mouche que... une pêche un peu plus violente. Trouble du voisinage, donc les voisins se plaignent, mais sachez l'ambivalence et le côté protecteur des voisins. Il y a des voisins pour et des voisins contre. Et quelquefois, ce qui nous empêche d'intervenir, c'est que les locataires se sont réunis hier soir pour dire non, on la garde. Elle a menacé de faire sauter l'immeuble au gaz, mais quand même, on garde l'espoir. Impressionnant. Impressionnant. Et je dis souvent dans des réunions aux mairies, vous avez tous les ingrédients pour être dans les journaux dans quelques heures. Oui, mais c'est rien passé. Et même la police, on attend. Donc, quelquefois, nous sommes le poil à gratter pour dire non, vous avez tous les facteurs de risque d'une catastrophe annoncée. Ce n'est pas imprévisible, ce n'est pas un drame de la folie, c'est tout écrit. Froideur, préméditation, non négociable. Par exemple, le repli, donc on a beaucoup de syndromes de jeunes dont le seul compagnon est Internet, qui ne sort pas, qui ne se saccage pas, qui se cache. C'est un syndrome de Saito, qui est un psychiatre japonais, qui a décrit ce syndrome d'Ikikomori, de jeunes qui se replient. Ils n'ont pas forcément une schizophrénie, mais ils ne sortent pas, ils se cachent. Et puis les troubles de comportement avec les plus loufoques, les plus bizarres, sans problème. Qui nous confie des patients? En premier lieu, c'était les CMP. On était très surpris parce qu'on a dit, on est des concurrents potentiels, ils vont nous détester. Pas du tout. On les a soulagés de nombre de cas perdus de vue depuis quelques mois, quelques années. Après, ils ne sont plus devenus le premier demandeur. Ce sont les familles, les travailleurs sociaux, et nous avons énormément avec les travailleurs sociaux, énormément. Ils aimeraient même qu'on aille régulièrement à la Réunion. Ben oui, Lyon, c'est un peu grand, on ferait que ça. Ensuite, c'est plus divers, les organismes de tutelle, les tuteurs, les curateurs, par exemple, sont des personnes très, très importantes. Les généralistes, la médecine préventive universitaire, qui nous détecte pas mal de cas d'étudiants qui ne vont pas en cours, ils n'ont plus rien. D'autres médecins, la TMP, l'unité médicale d'urgence de l'hôpital du Vinatier, des associations, l'UNAFAM, beaucoup de personnes. Mais c'est très divers. La suivante. Au départ, nous avions surtout des retards, enfin des ruptures thérapeutiques, dont la moyenne en 2012 était quand même de rupture de 384 jours en moyenne. Donc, ce n'est pas un arrêt de 3 jours des soins. C'est un an avec des situations profondément dégradées. Et très vite, dès la fin de l'année, nous avons, et c'est un bonheur, d'avoir plus de demandes de premier contact avec la psychiatrie. Premier contact qui est mérité après 6 mois de maladie, ou quelquefois 30 ans de maladie. On est rentré dans des maisons, dans des villas presque luxueuses, avec une pathologie phénoménale, mais un entourage, une solidité digne d'un CTTP ou d'un hôpital de jour à la maison. En termes de diagnostic, nous avons de la peine de coder avant de voir la personne. Donc nous manquons d'un outil international d'évaluation des besoins de soins. Nous sommes en train de rechercher en termes de il crie, il tape dans les tuyaux, il fait peur, il menace. Un descriptif qui puisse être quand même publiable, comparable à d'autres interventions. Donc, en premier lieu, la schizophrénie. Deuxièmement, les troubles de l'humeur, dépression et troubles bipolaires. Puis ensuite, nous avons les addictions. Les addictions, vous savez, on y va tôt le matin. C'est pas bon chez quelqu'un qui boit 16 bières et 4 litres de vin par jour de venir vers 16 heures. C'est trop tard. Il dort, il cuve, il n'ouvre pas la porte. Donc on y va un peu à la fraîche. Nous avons des troubles névrotiques. Nous avons des tableaux atypiques de dépression essentielle. On croit que c'est une schizophrénie sur le papier. Quand on rencontre la personne, elle a toute son intelligence, son humour. Mais elle est profondément marquée par une perte d'énergie vitale, une perte de sens de la vie. L'issue, au départ, nous pensions beaucoup hospitaliser. Enfin, moi, je n'y pensais pas trop. Mais dans l'équipe, c'était on va hospitaliser, on va hospitaliser, on va hospitaliser. Le résultat des courses, c'est que l'hospitalisation, c'est environ 18% des issues des interventions. Et on est très heureux. Et on essaye de faire une façon normale, libre, j'aime pas bien, parce que je ne sais pas si c'est le terme officiel, je crois. Mais on évite vraiment le sans consentement. Et quand on fait du sans consentement, c'est que vraiment, il faut y aller. On est allé avec la police, les tasers, la grande échelle, les pompiers, et la personne refuse. CMP, Alors, dès qu'on a une demande, on alerte le CMP de référence dans la journée pour dire, nous avons quelqu'un de votre territoire populationnel qui, pour lequel une demande est exprimée. On nous dit, ben, merci, mais pourquoi vous nous appelez? Ben, parce qu'un jour, vous le verrez peut-être dans vos files actives. On a des refus de prise en charge, nous avons des échecs. Alors, soit ça se dégénère et la violence est pure et c'est innégociable, on ne peut plus parler avec la personne, voire des menaces de mort. Si vous venez, je fais tout sauter. On a eu beaucoup de demandes grâce au préfet suite à l'immolation par le feu à Nantes, la NPE. Là, on a eu vraiment. Et c'est des gens qui sont très différents, qui sont peu chargés en pathologie mentale et qui font ce qu'ils annoncent. On en a eu un il y a 15 jours. Jeudi, on l'a en contact. Vendredi, trois fois, on l'a au téléphone. Il nous raccroche au nez. Il avait programmé lundi. Lundi, le briquet n'a pas marché. Il était arrosé d'essence. Il est hospitalisé de l'hôpital. Il profère encore des menaces d'immolation par le feu à son logeur qu'il a expulsé. Il a tous les facteurs de risque, 60 ans, maladie cardiaque très sévère, espérance de vie très faible. On lui a retiré toutes ses armes. Il a perdu de l'argent, il a perdu son domicile, il a perdu sa famille. Il n'a plus rien à perdre. Une bombe humaine. On oriente vers les psychiatres libéraux aussi, bien sûr, des psychologues. Quelquefois, il n'y a pas de suivi nécessaire. La situation se débloque. La personne n'avait pas de psychopathologie. C'était le système familial qui était perturbé. Et puis, nous avons, c'était en fin d'année 2012, les situations dures. On pensait qu'en une semaine, on allait tout régler. C'est faux. Quelquefois, il faut aller 5, 6, 7 fois à domicile avant d'avoir le contact, d'avoir un premier lien et puis d'inviter à aller vers un CMP. Nous allons accompagner la personne au CMP. Elle a un rendez-vous, nous pouvons l'emmener. Elle n'y va pas une fois ou deux, nous allons la chercher et nous la ramenons au CMP. On essaye de voir les causes. Et quelquefois, les personnes ont perdu le RSA, donc n'ont pas acheté les médicaments, donc ils n'osent pas se présenter devant un médecin sans avoir acheté l'ordonnance. Petit problème, on peut le résoudre. En conclusion, bonne intégration du dispositif très rapidement. Moi, j'avais peur de résistance, même si je considère que les résistances, c'est de la bonne volonté congelée. Mais là, non. Globalement, on a été adopté très rapidement. Nous avons de très nombreux partenaires. Nous avons fait de très nombreuses présentations. On a une, deux, trois présentations par semaine. Et on nous demande de venir une fois, de réexpliquer. C'est absolument extraordinaire. Beaucoup de solutions, de situations sont résolues sans intervenir. Et c'est la plus belle solution. Nous recevons la famille, ceux qui entourent la personne. La personne sent une pression thérapeutique, les mots sont plus clairs, les conseils plus précis, et la personne va directement vers le soin. Pour moi, c'est la consommation la plus faible, mais le résultat le plus beau. Il n'y a pas eu de contrainte, nous n'avons pas brisé ce cercle d'intimité. L'objectif d'éviter l'hospitalisation, que j'espérais, est atteint dans la grande majorité des cas, mais s'il y a besoin, nous le faisons. Je tiens à votre disposition des petites plaquettes dans son modèle actuel, et puis le CPS. Voilà. Et je tiens à vous remercier pour votre attention du matin.